Le fils Moga. Première partie, chapitre 7. Après le déjeuner, Étienne prétexta sa nuit blanche et sa course matinale pour se rendre dans sa chambre. Il se jeta tout habillé sur son lit, éprouvant un soulagement indéfinissable à se sentir glisser dans le sommeil et à se débarrasser ainsi de la pensée odieuse qui, depuis 2 heures, lui martelait le cerveau. Pendant quelque temps, l'engourdissement fut complet. Mais l'esprit avait été trop douloureusement secoué pour que le sommeil fût longtemps paisible. Insensiblement, le jeune homme rouvrit les yeux. Par les losanges des volets clos, le soleil plaquait 2 taches dorées sur la moquette brune du tapis. Un sourd bruissement d'insectes montait du jardin, et, au loin, par intervalles, retentissait l'enclume d'un maréchal ferrant. Sa première sensation fut celle d'un poids qui lui oppressait le cœur. Il ne se rendait pas compte d'abord de cette impression d'angoisse. Tout à coup, le souvenir du métayer imprima une secousse à son cerveau et réveilla la pensée dominatrice qui l'obsédait depuis le matin. Était-il possible que son père fût un malhonnête homme? Depuis sa petite enfance, Étienne avait été élevé dans le respect et l'admiration de M. Moga. Sa mère, loin d'abaisser l'autorité du père en le contredisant devant l'enfant, se plaisait au contraire à l'exalter. Il s'était ainsi formé dans la maison une légende presque héroïque de Simon Moga, arrivant à la fortune à force de volonté et d'intelligence. Lorsqu'Étienne se promenait dans la campagne avec sa bonne, on lui montrait des champs de blé, des prés en fleurs, des vergers rouges de fruits, et on lui disait « Tout cela, c'est ton père qui l'a gagné ». Il avait grandi avec cette idée que tout le bien-être de la maison était dû au travail de son père. Et M. Moga n'épargnait rien pour accroître la haute opinion qu'on avait de lui. Les domestiques tremblaient devant le maître. Sa volonté n'était jamais discutée. Ses moindres affirmations étaient regardées comme des vérités absolues. Plus tard, Étienne, ayant été envoyé à Poitiers, puis à Paris pour ses études, avait trop peu vécu à Saint-Clémentin pour se rendre compte de la façon dont Simon Moga était coté dans l'opinion publique. Pour lui, son père était toujours resté l'homme impeccable, le banquier riche et intelligent, qu'il avait appris à admirer et à respecter dès l'âge le plus tendre. Tout au plus, se permettait-il de trouver que M. Moga était trop positif et que son goût pour la richesse et le pouvoir lui faisait trop mépriser ce qui ne touchait pas aux intérêts purement matériels. Encore mettait-il ce manque d'élévation sur le compte des nécessités laborieuses d'une vie où tout était gagné à la pointe de l'épée. Pour le surplus, honneur, haute raison, probité inflexible, M. Moga, aux yeux de son fils, avait gardé tout son prestige. Les insinuations du métayer de la Fénicardière étaient le premier coup porté à cette admiration filiale, et ce coup avait été aussi rude qu'inattendu. Les paroles du vieux Jacquet résonnaient douloureusement à ses oreilles. « Ceux que vous avez mis sur la paille se comptent par centaines !» Et son père n'avait rien répliqué. Qu'y avait-il de vrai dans cette accusation ? Le bien-être dont il jouissait depuis son enfance était-il fait avec les gros sous arrachés injustement à de pauvres diables? ses métairies, ses prés, ses bois épars dans tous les coins du canton? Représentait-il le fruit de spéculation semblable à celle qu'avait dénoncée le métayer de la Fénicardière? Le soupçon était horrible, et Étienne sentait qu'il ne pourrait plus vivre en paix avant de l'avoir éclairci. À qui demander une explication? À son père? Il n'y fallait pas songer. Au premier mot, le banquier aurait fermé impérieusement la bouche à son fils. Quant à Madame Mauga, elle croyait sans doute, comme Étienne, à la pleine honorabilité du chef de famille. Et le jeune homme se serait fait scrupule d'ébranler cette conviction. C'était déjà bien assez que le soupçon se fût glissé dans son esprit à lui et y eût jeté le trouble. Et pourtant, il voulait savoir. Il lui était impossible de porter plus longtemps cette lourde pierre d'angoisse dans sa poitrine. Tout en cherchant la solution de ce douloureux problème, il se rappelait certains incidents désagréables de la noce de Célestin. Il se souvenait des figures méfiantes de ses voisins de table, des conversations brusquement interrompues dès qu'il voulait s'y mêler, des coups d'œil furtifs que les paysans se lançaient les uns aux autres, comme pour s'avertir de la présence du fils Mauga. Il rapprochait ses menues remarques de l'étrange aversion manifestée par Thérèse Desroches. Et il se demandait, avec un pénible sentiment d'humiliation, si la jeune fille n'était pas déjà au courant des bruits auxquels le métayer Jacquet avait fait allusion. Assurément, les gens du Breuil devaient savoir quelque chose, et Célestin lui-même, malgré son culte pour M. Mauga, ne devait pas ignorer les calomnies qu'on débitait, car ce n'étaient que des calomnies. Étienne l'espérait encore, et il était urgent que le banquier fût en mesure de les étouffer. L'idée de tâter Célestin et de lui faire subir un interrogatoire sérieux se développa rapidement dans le cerveau d'Étienne, qui résolut de la mettre le jour même à exécution. Il se leva et regarda la pendule. 3 heures. La noce devait festoyer encore toute la soirée au Breuil, et il avait le temps d'y retourner. Il se plongea la tête dans une cuvette d'eau fraîche, répara le désordre de sa toilette, et, ayant prévenu sa mère qu'il se croyait obligé de remplir jusqu'au bout son rôle de garçon de noces, il reprit la route de la Fuie au moment où la chaleur du jour commençait à tomber. Il refit péniblement ce chemin qu'il avait parcouru la veille d'un pas si allègre. Il allait si lentement que l'horloge de Saint-Saviol sonna 8 heures lorsqu'il gravit enfin le coteau du Breuil. Le soleil se couchait et baignait dans une lumière d'or les massifs des châtaigniers. Les vitres de la Fuie flamboyaient. Il poussa la porte charretière et fut étonné du silence qui régnait dans la borderie, si bruyante et si peuplée la veille. La grande table était encore dressée et la Bardine, aidée d'une servante, était en train de remettre la vaisselle en ordre. « Bonnes gens ! » s'écria-t-elle en apercevant Étienne. « Vous voici seulement, monsieur Mauga. Célestin ne vous espérait presque plus. » Il est allé avec notre fille et tout le jeune monde pêcher des écrevisses dans la rivière, jouxte notre pré de chante grelée, et il a bien recommandé de vous y envoyer lorsque vous arriveriez. Je vais vous mettre sur votre chemin. » Elle le guida quelques minutes à travers les vergers, puis, lui montrant une sente qui dévalait au bas du coteau, « Tenez, dit-elle, vous n'avez plus qu'à suivre ce grippeau qui vous conduira droit à la prairie. Vous trouverez nos gens au bord de l'eau. » Étienne descendit rapidement le grippeau qui était escarpé comme un sentier de chèvre. Quand il fut au bas, il aperçut devant lui les prés où la Charente serpentait, toute rose des lueurs du couchant. Elle se divisait en 2 bras bordés d'aunelles, et au-delà, entre 2 hauts peupliers, on voyait le hameau de Dalidan, environnée d'un nimbe de fumée bleue. Le jeune homme n'eut pas de peine à découvrir les pêcheurs d'écrevisses. L'air du soir lui portait le bruit de leur voix joyeuse. À travers les aunelles, il les aperçut bientôt dansant sur l'herbe, au son d'une ronde poitevine dont les paroles naïves lui arrivaient par lambeaux.
Au printemps, la mer jasse, au printemps, la mer jasse, fit son nid dans un buisson labibole, fit son nid dans un buisson bibolon.
Au milieu de la ronde, il distingua la robe de Mademoiselle Desroches. La blancheur de la mousseline tranchait sur le vert de la prairie parmi les toilettes bariolées des autres danseurs. Il s'arrêta un moment et s'accota à une barrière qui fermait l'ouverture du pré. Il redoutait maintenant d'aborder Célestin et d'avoir avec lui une explication qui allait peut-être remplacer ses doutes par une certitude plus odieuse. Au moment décisif, un vague pressentiment lui conseillait d'attendre encore. Il éprouvait une jouissance mélancolique à écouter les éclats de cette joie rustique et insouciante qui montait de la prairie. Il enviait la gaieté de ses paysans, et, à cette heure, il eût volontiers consenti à prendre la place de l'un d'eux, au lieu d'être le fils du banquier Moga. Bercé par le refrain de la ronde, il s'oubliait à rêver une simple et rude vie de paysan au fond de l'une de ces borderies éparses sous les châtaigniers. Une existence unie où les jours ne se distingueraient les uns des autres que par la diversité des travaux, labour, fenaison, métive, où les journées laborieuses seraient coupées de temps à autre par de bruyantes soirées de danse aux époques des balades, et où un soir il ramènerait par les chemins creux, bras contre bras, le cœur près du cœur, les deux têtes se touchant presque, une fiancée robuste et aimante, à la beauté un peu sauvage. Il fut réveillé de son rêve par une explosion de cris. Les danseurs s'étaient quittés. Il courait maintenant ça et là, le long de la rive, cherchant les balances et s'apprêtant visiblement au départ. Il était temps de rejoindre Célestin. Étienne, le cœur palpitant, franchit la barrière et traversa la prairie. Quand il atteignit les gens de la noce, les couples s'étaient repris les bras et défilaient dans l'herbe, les deux mariés en tête. À la vue du fils de son patron, Célestin poussa un « hurrah ».
« Bravo, monsieur Étienne !» s'exclama-t-il. « C'est bien d'être revenu ce soir.
Vous arrivez juste à point pour le souper, et nous vous rapportons de belles écrevisses que la Bardine aura le plaisir à faire sauter dans l'eau bouillante. » Il se retourna vers la file des noceux.
« Hola, les enfants! Sommes-nous au complet? Toutes les balances sont-elles relevées ?»«
Il en manque une !»
répondit un jeune gars dans lequel Étienne reconnut l'inévitable Jouzé.
« C'est Mamselle Desroches qui l'a posée. Elle connaît l'endroit et elle est allée l'acquérir.
J'ai bonne envie de courir à son aide. »«
Reste là, Jouzé, » reprit Célestin d'un air digne. « Tu es toujours occupé à virer autour de Mamselle Thérèse.
Ça pourrait être remarqué et ça finirait par l'ennuyer. Je vais y aller. Ou plutôt, continua-t-il en prenant Étienne à part,
« remplacez-moi, monsieur Étienne. Montrez-lui que vous n'avez pas de rancune.
Je lui ai fait un bout de sermon ce matin, et elle a regret de sa conduite d'hier.
En route, les enfants!
Monsieur Moga et Mademoiselle Desroches nous rejoindront en haut du grippeau. »